Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles pour les deux prochaines heures. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web de 10h à midi. Et vous le savez, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en podcast. Nous sommes mercredi 3 avril. Au programme de l'émission, on va se poser la question, est-ce que les riches jouent au loto? 2 Français sur 3 espèrent devenir riches grâce à la chance, mais seulement 10%, à peine plus, connaissent réellement les probabilités de gain. C'est une étude Yomoni qu'on va décrypter avec mes invités ce matin. 10h30, votre dose d'économie comme tous les jours avec Stéphane Pedrazzi. Aujourd'hui, c'est toujours la foire fiscale. Ça ne vous a probablement pas échappé. La nouvelle idée du jour, c'est de taxer les rentes. Mais qu'est-ce que c'est qu'une rente précisément? Stéphane va nous rappeler. Côté bourse, Antoine est en train de se connecter depuis Euronext. Nos deux traders également poursuivent la séance du jour dans le cadre du match des traders. Aujourd'hui, dans l'actu, on vous coach. On va revenir sur les records de l'or. Records qui s'expliquent par un alignement des planètes. C'est ce que nous dira Laurent Schwartz du comptoir de l'or avec nous dans 45 minutes. Et puis, on se posera une question. L'or gagne-t-il également en attrait grâce aux cryptos? C'est Amaury de Tonquédec qui lui posera cette question. Le question-réponse du jour est boursier. Comment se préparer à un crack sur les marchés boursiers? Les bear markets sont normaux et font partie de l'histoire. Vous le savez si vous suivez les marchés depuis longtemps. Les marchés américains ont subi 36 cracks entre 1900 et 2021. Alors que faut-il savoir? On vous répond avec Grégory Guillemin de la bourse Make It Easy. Et puis au programme, bien sûr, il y a vous. Vous êtes très nombreux et nombreuses à nous écouter en podcast. Merci à nous écouter en direct aussi. Vous pouvez nous joindre par email. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr et puis aussi par LinkedIn comme Mokhtar et Patrick à qui on répondra dans quelques minutes sur les penny stocks et sur l'investissement dans le nucléaire civil. Mais pour l'instant, nous partons à Euronext rejoindre Antoine Larigauderie.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Cher Antoine, on vous retrouve avec en toile de fond un marché qui reste un peu indécis après le coup de froid sur la séance d'hier.
Oui, c'est vrai qu'on était pris vraiment en étau hier entre des indicateurs macroéconomiques qui étaient plus dynamiques que prévu, avec des tensions sur les taux obligataires. Du coup, on se dit que les banques centrales sont peut-être moins pressées du coup de baisser leurs taux d'intérêt. Parallèlement, on a eu des pointes de risques géopolitiques, ça on en a beaucoup parlé, qui ont fait grimper les prix du brut. On est du côté des 89 dollars, on a gagné 1 dollar en 24 heures, les records en série. D'orfin, on en a encore à l'idée ce matin au-delà des 2300 dollars l'once. Donc du coup, voilà, on sent un marché effectivement un petit peu tendu. On a eu une baisse marquée des indices hier du côté de Wall Street. Ça fait la deuxième séance consécutive. Et puis à Paris, on se cherche un peu une direction ce matin. Alors on a une hausse de 0,03% du CAC 48 132 points. Parallèlement, on sent qu'il y a un petit coup de faiblesse sur les valeurs tech, des valeurs de croissance qui sont un petit peu gênées par le niveau des taux qui a un peu augmenté sur le marché obligataire. Donc on a une baisse de 0,16% de l'Euronext Tech Leaders. Le DAX à Francfort, plus 0,12%. L'Eurostox 50, lui, gagne 0,2%. Alors parmi les valeurs les plus actives du jour, c'est Saint-Gobain qui signe la plus forte hausse, plus 1,2% à 72,32€. On a quand même Hermès qui gagne 0,8% à 2380€. Puis alors il y a un secteur qui est vraiment recherché ce matin, c'est celui de l'aéronautique et de la défense, avec Thales qui gagne 0,99%, on est à 158,85€. On a Dassault Aviation aussi qui signe une des plus fortes hausses du moment sur le SBF 120. À noter les moins bonnes performances du jour, alors on a Stellantis qui recule d'1,9% à 24,90€. 1,98. Deuxième séance de forte baisse après des chiffres de vente en recul sur le marché européen. Le mois dernier, on a Unibail, Rodamco, Westfield, -1,5 à 72,76. ArcelorMittal aussi, -0,8, 25,33. Et Atos qui signe la plus forte baisse du SBF 120, -3,7%. On descend à 1,82€. Donc vous voyez une tendance un petit peu volatile. Plus 0,06% pour le CAC qui est à 8,134 points. Et l'euro, lui, regagne quelques points. On est à 1,0773 face au dollar.
Merci beaucoup, Antoine. On vous retrouve dans quelques minutes. Vous allez faire partie de notre équipe de débatteurs. On va revenir notamment sur Tesla et puis aussi sur les Français qui feraient peut-être mieux d'investir en bourse plutôt que de jouer au jeu de hasard. A tout de suite, cher Antoine.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Quelques titres à la une qui vous concernent en tant qu'investisseur particulier. D'abord, la bourse de New York qui a fini en baisse mardi. Les investisseurs s'interrogent toujours sur le calendrier de baisse des taux de la Fed qui pourrait être plus tardif qu'espéré. Tesla aussi, vous l'avez entendu, a pesé sur les marchés américains après avoir fait état d'une baisse de ses livraisons trimestrielles. Pour la première fois en plus de 4 ans, l'action Tesla a terminé à presque moins 5% après avoir été d'ailleurs bien plus bas pendant la journée. Ce matin, on parle de ça en Europe, évidemment. Grosse déception de ces chiffres de livraison. Les experts s'attendaient à 410 000 voitures sorties d'usine et le chiffre était autour de 386 000, nettement en dessous des attentes. On va en parler dans quelques minutes avec Antoine Larigaudry et Laurent Grassin de Boursorama. En Asie, on a d'autres sujets de préoccupation ce matin. Taïwan a subi le séisme le plus violent depuis 25 ans, autour de 7,4% sur l'échelle de Richter, sur l'échelle de Richter. Il a déclenché des alertes tsunami dans toute la région, du Japon aux Philippines. Pour le moment, on déplore 7 morts et puis plusieurs immeubles effondrés à Taïwan. Ce puissant séisme sur les marchés fait craindre des perturbations dans le secteur des semi-conducteurs. Taïwan est l'atelier et puis aussi le service de vente des semi-conducteurs du monde, notamment avec Taiwan Semiconductor. Côté bourse, ça donne moins 0,6% à Taïwan, Hong Kong moins 1%, la Chine continentale moins 0,3% et puis le Japon à moins 0,7%. Côté pétrole, le baril de Brent flirte avec les 89$, au plus haut depuis quasiment octobre dernier. Une rencontre entre les ministres de l'énergie des pays de l'OPEP+, se tiendra aujourd'hui, mercredi, mais ne devrait pas recommander de nouvelles baisses de production. Un mot d'immo de bureau, si vous voulez bien, pour terminer ce journal. Je vous emmène du côté des États-Unis. 20%, c'est le taux de vacance des bureaux outre-Atlantique, selon un rapport Moody's. Nouveau record au premier trimestre. C'est un taux d'inoccupation qui est au-delà des sommets historiques atteints entre 1986 et 1991. Les locataires continuent de réduire leurs effectifs. Le modèle de travail hybride montre plus de résistance et puis met à mal tout le secteur de l'immobilier de bureau également aux États-Unis. Le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Fed a également touché l'immobilier commercial du côté des États-Unis et puis chez nous. À suivre, nous allons rejoindre nos deux traders pour faire le point sur la séance du jour.
Tout pour investir, le match des traders.
Ce matin, nous sommes avec Antoine Fraissoulier de chez Itoro et puis Romain Dobry de l'équipe Bourse Direct. Bonjour messieurs.
Bonjour Lorraine, bonjour à toutes et à tous.
Romain, on va peut-être commencer avec vous si vous voulez bien. On est avec un marché qui reste un petit peu indécis après le coup de froid de la séance d'hier. Comment vous envisagez la journée? Quels sont les bons conseils que vous pouvez partager avec ceux et celles qui nous écoutent ce matin?
Bien, c'est ce petit coup de froid, on le pressentait depuis quelques temps. On a sur l'indice parisien depuis la mi-mars des cotations qui sont un petit peu désordonnées, hein, des petits signes de désorientation. C'est-à-dire qu'on forme des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas. C'est ce qu'on appelle une structure en triangle inversé ou en porte-voix. Et c'est en haut de marché un petit signe que les grosses mains sont peut-être en train d'alléger quelques positions, tandis que les mains faibles repayent, ce qui donne ces cotations un peu désordonnées. Ça n'est pas un marché très harmonieux. D'ailleurs, on le voit sur les différents indices qui ne sont pas tous synchronisés. Alors, on a en plus de ça, pour rajouter un tout petit peu de pression baissière, c'est-à-dire que du côté des marchés dérivés, quand on observe la position ouverte, le nombre de contrats futurs, pour la première fois depuis longtemps, le nombre de contrats futurs a augmenté alors que le marché a baissé. Sur le CAC 40, en deux séances, c'est 8% de contrats futurs en plus. Sur l'Eurostock, c'est 4%. C'est pas mal. Et surtout, ça signifie que, on a dû créer des contrats pour faire face à la petite pression baissière qu'on rencontrait. Alors, il n'y a rien de méchant. pour l'instant, mais c'est un signe que ce mouvement de baisse qu'on a connu pourrait bien former un petit peu plus qu'un trou d'air et un mouvement de consolidation un peu plus marqué. On note que les volumes ont été un peu plus lourds dans le mouvement de baisse que dans les jours précédents, qu'il y a pas mal de valeurs sur lesquelles aussi on a des configurations sur l'indice CAC 40 qui sont un peu baissières, un petit peu lourdes à court terme. Encore une fois, rien de méchant, mais un marché qui a besoin de faire une pause, et ça s'est traduit un petit peu sur les indices américains. À noter que sur les marchés américains, on n'a pas cette pression baissière à ce stade. Et puis, on a globalement aussi, du côté des couvertures dans les portefeuilles, beaucoup de complaisance. On le signale depuis quelques temps maintenant. Alors, ça n'est pas un signe de retournement en soi, mais c'est signe que si les opérateurs sont surpris, ils ne sont pas protégés et ils vont devoir réagir, et ça peut amplifier un peu le mouvement. Alors, on a une volatilité qui était sous les 12, sous les 11 même, qui s'est retendue à 12,5, 13. Donc, ça, c'est signe qu'on a un peu pris la mesure des éléments, mais il y a encore, à mon sens, un peu de place pour que ça consolide un peu, même si on n'a pas d'alerte majeure à ce stade et que c'est plutôt une pause assez naturelle dans un marché qui a peut-être besoin de souffler. On constate aussi que c'était un peu la même configuration qu'on avait connue entre octobre 2022 et avril 2023. On était monté puissamment et puis on avait fait une pause de long terme. Et bien, c'est un petit peu le même schéma qui se met en place pour l'instant. On va voir si c'est toujours le cas, mais on se méfie d'un trou d'air un peu plus marqué. Donc, sur l'indice CAC 40, on n'a pas encore rompu les niveaux d'alerte. Mmh. On est toujours installé dans le trading range 8146 en bas, 8242 en haut. Le risque d'accélération sous la zone 8126-8146 est assez important, avec comme première cible 8054, puis des extensions à 7982. Vous voyez, on ne s'attend pas à des drames. Si on repasse 8194, c'est la médiane du trading range, c'est un peu mieux en journalier, et il faudrait vraiment se réinstaller plusieurs séances au-delà de 8242 pour éloigner cette alerte. Vous avez compris que ça n'est pas notre scénario privilégié dans l'immédiat.
Absolument. Merci Romain. Antoine, quel est votre scénario privilégié à venir ?
Oui, alors effectivement, on commence ce trimestre par une baisse. C'était peut-être assez prévisible, puisque je regardais depuis le point bas de fin octobre, le CAC 40 avait pris 43%. Donc on commence ce trimestre avec des prises de bénéfices, une certaine respiration de marché. Alors, pour l'instant, il n'y a vraiment rien d'inquiétant. Il n'y a même pas un premier signal d'alerte, puisque on n'a pas cassé le premier support. Alors, le premier support se situe, alors je parle pour le cash, le CAC 40 cash, à 8106 points. 8106 points, c'est vraiment le niveau. Derrière, ça correspond quasiment au point bas du mois de mars. Et c'est ce niveau, si on commençait à enfoncer ce niveau des 8106, on pourrait... Alors ensuite, se diriger vers 8017, qui est le niveau suivant. Mais pour l'instant, on est, j'ai envie de dire, perché tout en haut. On reste toujours haussier. Alors même si on pourrait s'attendre à une consolidation de marché, d'ailleurs la saisonnalité, on va rentrer dans une saisonnalité plutôt négative pour les indices, puisqu'il y aura la saison des distributions de dividendes. Puisque je rappelle, le CAC 40 est un dividende non réinvesti, donc en fait ça va mécaniquement faire baisser le CAC 40, et en général vers la fin avril début mai on a une saisonnalité plutôt négative. Alors ça serait pas étonnant qu'on aille retester pourquoi pas la barre des 8000 points, le seuil psychologique des 8000 points à très court terme, en intraday. On peut tenter des achats sur ce niveau pour essayer de rejoindre les plus hauts, qui se situent à 8250 points. 8250 points, c'est le plus haut donc annuel et plus haut historique sur le CAC. Pour l'instant, donc comme je vous disais, pas de signal d'alerte, de correction. Maintenant, on navigue. Maintenant, ça fait un petit moment finalement qu'on est entre ces deux bornes, comme je disais, 8106 et 8250, puisque ça date du 13 mars dernier, donc ça va faire trois semaines qu'on est entre ces deux bornes, et maintenant c'est possible qu'il y ait de la respiration quand même sur le CAC.
Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Romain. On vous retrouve pour d'autres décryptages dans le match des traders. À suivre, on va faire le point sur les actualités patrimoniale, financière et puis boursière, qui vous concerne en tant qu'investisseur.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
C'est mercredi, Laurent Grassin est parmi nous. Bonjour Laurent.
Bonjour Lorraine.
Directeur des contenus chez Boursorama. Et puis comme l'actu est un peu boursière, Antoine Larigauderie nous fait l'amitié de rester parmi nous depuis Euronext. Rebonjour Antoine.
Mais oui.
On va démarrer très avec une actu qui vous a occupé d'ailleurs un petit peu ce matin, Antoine. C'est décrypter les chiffres de livraison de Tesla qui déçoivent, enfin qui avant de décevoir dégringolent, on va le dire, et ensuite déçoivent. Rappelez-nous rapidement, Antoine.
Bah déjà, faut quand même se souvenir qu'on en avait parlé il y a une semaine de cette fameuse note de Wedbush, le courtier qui avait parlé d'un trimestre qui s'annonçait sans doute cauchemardesque pour Tesla. Donc effectivement, on est même au-delà des prévisions de Wedbush. On est au-delà de ce que prévoyaient la plupart des analystes. Même Goldman Sachs dit il y a encore moins de livraisons que ce à quoi on s'attendait. Bon, au-delà des chiffres, il y a quelque chose qui est peut-être très important à retenir autour de cette publication de Tesla. Premièrement, c'est que Tesla se rappelle au bon souvenir des investisseurs. On a eu tendance à mettre un petit peu de côté la valeur des fameux Magnificent Seven en disant, ils sont complètement à l'ouest, ils perdent 30%, là, peut-être même un peu plus depuis le début de l'année, 33%. Ils sont déclassés, c'est plus dans l'ordre de nos préoccupations. Mais si, parce que Tesla participe à la très forte valorisation de la big tech américaine. Il ne faut pas oublier son rôle un petit peu structurateur, comme l'est toujours Apple, comme l'est toujours Microsoft, etc. Donc, quand il arrive une bricole à Tesla, franchement, il faut se méfier pour l'ensemble des marchés. C'est un signal annonciateur qui n'est pas très très bon, mais Tesla est rattrapé par ses fondamentaux. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du côté un petit peu baroque du management d'Elon Musk, du risque, entre guillemets, qu'il représentait pour l'investisseur. Mais il y a aussi des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que Tesla n'a pas sorti de nouvelles voitures depuis 2020, que le Cybertruck, qui est quand même sorti il y a quelques mois, n'a absolument pas un rôle structurel dans les dynamiques de développement de Tesla, et que globalement, on reste sur 3 ou 4 modèles qui commencent à vieillir, qui sont remis à jour par informatique, mais il n'y a pas de nouvelles voitures. On attend, comme le Messie, la petite Tesla qui pourrait être un vrai game changer, un vrai produit de nature à chambouler le marché. Elle serait aux alentours des 20 000 $. Pour l'instant, on ne la voit pas. Pareil pour le Tesla Roadster, la voiture sportive, on ne la voit pas sortir. Donc il y a beaucoup d'interrogations autour de Tesla sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Et on voit, elle est très très affûtée avec des produits qui sont vraiment, vraiment à niveau, voire même au-delà désormais de ce que propose Tesla en termes de finition, en termes de technologie. Et puis, on l'a dit aussi beaucoup, une forme de plafonnement de la demande pour les véhicules électriques et surtout de ce calibre-là, tout simplement parce que en termes d'utilité, en termes de rapport qualité-prix, on arrive vraiment aux limites de la clientèle possible.
Est-ce que ça serait bien aussi qu'Elon Musk arrête de faire 15 métiers à la fois, du point de vue de l'investisseur particulier, d'avoir un boss qui bosse, quoi?
Oui, c'est souvent ce qu'on lui reproche, effectivement. On a l'impression, quand on regarde ou quand on lit ce qu'écrivent les investisseurs individuels, pour rappel, notamment aux États-Unis, Tesla, c'est le titre qui a reçu le plus d'achats nets rentrants des investisseurs individuels. C'est moins le cas maintenant où Nvidia a pris le relais. Mais c'est quand même, comme le disait Antoine, une valeur qui est extrêmement importante, y compris pour l'investisseur individuel. Et c'est vrai que c'est souvent ça. On a l'impression, quand on lit les commentaires, que oui, bah Tesla, ça l'intéresse plus. Il est à fond sur X, il fait SpaceX. Tesla, ça l'intéresse plus. Et puis Elon Musk l'a dit, le groupe il est entre deux vagues de croissance, effectivement, avec cette gamme vieillissante. Tout le monde s'est extasié devant la Xiaomi SU7 qui vient de sortir, qui a un furieux air de Taycan et qui quand même, on se dit, bah oui, les constructeurs chinois sont quand même particulièrement affûtés et ont de quoi séduire la clientèle, notamment européenne. Et puis il reste à côté de ça quelque chose peut-être de plus difficile à quantifier. J'ai pas réussi à retrouver de données, c'est sur l'affect de la marque, c'est-à-dire qu'on va toujours préférer avoir un Apple, notamment un iPhone, parce que c'est statutaire, parce que c'est bien fini. Est-ce que ce pouvoir est aussi fort sur une Tesla comparé aux concurrents chinois? On le voit avec des voitures très bien finies, très bien équipées. Et encore une fois, cette SU7 Xiaomi, je ne fais pas de la pub, j'ai pas d'action Xiaomi.
Vous ne l'avez pas encore testée?
Je ne l'ai pas encore testée. Elle sort en Chine à 27 000 euros. Alors, ce ne sera pas le prix qu'on aura sans doute en Europe, mais ça montre bien qu'il y a des voitures qui vont arriver avec de sérieux arguments. Donc, bien sûr, Tesla, ce n'est pas que la voiture automobile. Il y a plein de choses qui sont à venir. Il y a la conduite autonome, il y a le développement. Mais là, à plus court terme, tactiquement, on est un peu au creux de la vague.
Voilà. Antoine, vous voulez boucler sur la SU7 de Xiaomi? Vous allez nous en parler?
Ah oui, on va en reparler, parce que on parlait d'une concurrence acharnée. Elle existe déjà, si vous regardez ce que fait BMW, ce que fait Mercedes. Et ils ont des voitures, mais qui sont vraiment au top, et en plus avec la plus-value de la marque. Tesla fonctionne aussi, et c'est bon à noter, sur un fonctionnement très très communautaire. Donc effectivement, une clientèle fidèle qui veut que de la Tesla, qui a priori, ça pourrait même être des voitures essence, ils s'en fichent. Pour eux, c'est Tesla, c'est la marque Tesla. Alors certes, il y a la technologie de l'électrique, il y a l'autonomie qui les attire et tous les gadgets, toute la high-tech, mais finalement, ça, ça fait une clientèle très fidèle, effectivement, très captive et très demandeuse de nouveaux produits. Mais en termes, là aussi, de possibilité d'attirer de nouveaux clients, on arrive peut-être, là aussi, à une situation de plafonnement. Ça n'aura qu'un temps. On sait que Tesla sortira une nouvelle voiture et on va dire de nouvelles dynamiques vont se développer, mais pour l'instant, on est à un instant charnière pour le constructeur qui doit faire bien attention parce qu'il est rattrapé par les fondamentaux de l'industrie automobile générale.
Antoine, je vous donne 30 secondes pour que vous nous racontiez l'actualité financière qui concerne Soitec.
Oui, c'est pas très très bon Soitec, hein, parce que après la cavalcade du secteur des semi-conducteurs pendant l'ensemble de l'année dernière, on arrive là aussi à une forme de plafonnement et des analystes qui disent que le marché va devenir de plus en plus difficile avec des vrais goulets d'étranglement. On aurait pu se dire que Soitec était à l'abri de tout ça vu qu'il est en amont de l'industrie, vu qu'il fabrique le silicium sur isolant qui est nécessaire à n'importe quel fabricant de semi-conducteurs pour développer des composants de très haute performance, et vu les dynamiques de développement de l'IA, autant dire qu'on en a besoin, oui. Le titre perd quasiment 40% depuis le 1er janvier. Et énormément d'analystes, justement, sont en train d'abaisser leurs recommandations sur la valeur. C'est le cas de Morgan Stanley ce matin, qui cite un climat dans l'industrie qui est particulièrement difficile. Alors, effet aussi par ricochet de ce qui est en train de se passer du côté de Taïwan, tremblement de terre, TSMC qui suspend à un moment sa production, parce que des goulets d'étranglement sont en train de se former et sont peut-être même en train de s'aggraver là en ce moment.
Laurent ?
Oui, non, mais TSMC, sur les semi-conducteurs, c'est vrai qu'on est passé de l'ère post-Covid, immédiate, où on avait des pénuries et autres, et là, on se retrouve dans des situations où TSMC avait averti, là aussi, assez tôt, en disant que, maintenant, c'était plutôt le risque de surproduction. Donc, on voit un renversement complet du marché en quelques mois, allez, plusieurs mois, et c'est vrai que Soitec, on fait directement les frais avec cette réaction terrible la semaine dernière. Je crois que c'était moins 20% en une séance sur le titre.
Soitec, voilà, avec Morgan Stanley qui abaisse sa recommandation. On va changer de sujet, on espère, sans transition pour Soitec. On a un auditeur qui s'appelle Mokhtar, qu'on salue, qui m'a écrit sur LinkedIn à propos des penny stocks. Et on s'est dit que c'était l'occasion de faire un petit point sur le moment où une action devient un penny stock avec vous, Laurent Grassin. Il achète souvent des penny stocks, Mokhtar. Il nous demande si c'est une bonne idée.
Pourquoi pas ? Il ne faut pas en acheter trop. Je pense que c'est peut-être souvent pourquoi pas trop. Attention. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une penny stock ? Pour les gens qui ne sauraient pas, une penny stock, c'est une action. Alors, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le seuil. Moi, je considère que quand on va basculer en dessous de 2 euros, donc même quand on est encore au-dessus de l'euro, on commence à rentrer dans cette catégorie. Donc des actions qui valent très peu cher, 1 euro, allez, maximum 2 euros, et souvent en dessous de l'euro. On voit bien que quand on est à ces niveaux de cours-là, la moindre variation devient tout de suite extrêmement importante. Si vous avez une action à 50 centimes, qu'elle passe à 60 centimes, vous avez tout de suite 20% de hausse. On voit bien pourquoi ça intéresse les investisseurs particuliers. D'ailleurs, la typologie de ces actions est souvent que ce sont des valeurs moyennes qui ont connu des difficultés. J'ai coutume de dire qu'on ne naît pas penny stock, on le devient, après un parcours boursier qui est souvent compliqué. Et souvent avec un capital avec beaucoup de flottants, avec beaucoup d'investisseurs individuels, ce qui accroît en plus la volatilité. Donc, est-ce qu'il faut ou pas, bonne ou mauvaise idée ? On peut très bien se dire, encore une fois, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Et ça change tout. Si on se dit, j'aime bien ce côté dynamique, spéculatif, un peu risqué, et j'ai envie d'y exposer une partie de mon portefeuille, une partie limitée, en connaissant les risques, pourquoi pas ? Si on se prend au jeu, on se brûle les ailes, parce que bien sûr, qu'est-ce qu'on a dans la penny stock ? Et on va en parler avec l'enquête aussi de Yomoni, c'est l'espérance du gain rapide, c'est la timbale, c'est le plus 50% en une séance. Ça marche des fois, et puis des fois, ça marche pas. Donc, si on arrive à aborder ce compartiment, en tout cas ce type de valeur de façon rationnelle, pourquoi pas ? Ça peut aussi être une bonne école de rationalisation de ses décisions d'investissement. Quand on a un titre comme ça, finalement, on sait, il faut être beaucoup plus froid, beaucoup moins engagé que dans certaines valeurs où on se dit non, je vends pas parce que je suis tellement attaché, j'y crois tellement, je le fais pas.
Il faut être plus froid, même si ça coûte quelques centimes. Oui. Est-ce que Casino est une penny stock, Antoine, là, avec au cours actuel ?
Ah bah oui. Casino ?
Ouais.
Le casino, c'est plus coté. Hein.
Est-ce que ça aurait été un penny stock si c'était resté coté ?
Non, en revanche, il y a peut-être un cas intéressant auquel on peut penser, par exemple Atos. Alors c'est pas un penny stock, elle est à 1,80€, mais effectivement c'est une grande entreprise, mais qui est devenue une penny stock. Alors on peut en acheter en se disant ah, chouette, va y avoir un plan de redressement, ça va être rationalisé, le cours va monter, etc. Mais souvent c'est au prix de recapitalisation drastique qui dilue totalement la valeur pour l'actionnaire, ou par des cessions d'actifs qui finalement rendent l'actionnaire dépendant de la tendance. Et c'est peut-être un jeu un petit peu dangereux. C'est vrai que ça peut être un petit pari de court terme avec de l'argent dont on n'a pas besoin, hein, on le rappellera jamais assez. En bourse, on fait du trading actif avec de l'argent dont on n'a pas besoin. Ça, c'est règle de prudence numéro un. Après, c'est vrai que ça peut être un bon apprentissage justement de la patience et puis aussi d'un suivi dynamique de l'actualité. Maintenant, il y a des fois où on n'endort plus.
Bon, on va changer tout à fait de sujet pour finir ce talk, messieurs. Je vous ai, on a partagé en préparant cette émission une étude Yomoni sur les Français. Que se passerait-il s'ils investissaient les sommes qu'ils jouent au jeu de hasard? 2 Français sur 3 espèrent devenir riches grâce au hasard ou grâce à la chance, ça dépend de quel camp vous êtes, la chance ou le hasard. Mais moins de 12% connaissent réellement les probabilités. Quelque part, ça nous amène aux maths.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous inspire, cher Laurent?
Ça nous amène aux maths et ça nous amène, encore une fois, au biais de comportement et à la croyance. Et à un truc dont on doit toujours se méfier, que ce soit quand on joue au loto ou en bourse, c'est l'espoir. C'est-à-dire que quand on joue au loto, c'est l'espoir d'un gain rapide qui va changer votre vie. Et effectivement, la probabilité de gagner au loto, c'est 1 sur 20 millions. Alors, c'est sûr que quand les mêmes Français vont nous dire « j'ose pas investir en bourse parce que c'est risqué, je risque de perdre mon capital », quand ils jouent au loto, pour le coup, la probabilité de perdre leur capital est beaucoup plus élevée. Et on parle quelquefois de gens qui investissent quand même des sommes dans les différents jeux de hasard, que ce soit jeux à gratter ou loterie, qui sont quand même conséquentes.
Ouais. Antoine, 77% des sondés estiment que l'épargne est quand même plus judicieuse. Ça nous rassure un petit peu quand même?
Alors, est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît,
Laurent? Des problèmes de connexion, excusez-nous pour ceux qui nous écoutent. Je disais que dans cette étude Yomoni, on a quand même près de 2/3 des Français, enfin plus que ça, 77% qui estiment que l'épargne, c'est quand même le choix plus judicieux. Est-ce que ça vous rassure?
Oui. Oui, tout simplement parce que à la bourse, comme pour n'importe quel actif sur les marchés financiers, c'est le temps long qui fait la différence. Les gains rapides sur lesquels on compte, de toute manière, pour profiter et pour véritablement amonceler des gains sur des choses de très court terme, sur des penny stocks, etc., ça demande beaucoup de capitaux, et beaucoup de capitaux qui sont mis à risque. Donc, il y a des gens dont c'est le métier, faut pas essayer de dépasser leur savoir-faire, et encore une fois, c'est le temps long. Et ça a quelque chose, effectivement, de rassurant.
Bon, on finit, si vous voulez bien, avec une question, Laurent. On a Patrick qui nous suit, qui nous écoute et qui nous a écrit, qui voudrait investir dans le nucléaire civil.
Oui.
Son anticipation, ou son attente, c'est que le nucléaire civil va reprendre une phase, va reconnaître une phase de croissance dans les années qui viennent. Il connaît l'entreprise et la valeur à système. Il nous demande d'autres entreprises qui pourraient être intéressantes.
C'est compliqué parce que Assystem, effectivement, il a choisi la plus emblématique, qui est vraiment un pure player du nucléaire avec une grande expertise sur le sujet. Et après, quand on va regarder, quand on va essayer d'élargir, on a effectivement des entreprises qui ont une exposition au nucléaire, mais sur une partie de leur chiffre d'affaires plus ou moins grande. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. On pourrait néanmoins citer une autre entreprise de taille moyenne que j'aime bien, Exel Technologies. C'est l'ancien groupe Gorgé, qui notamment au travers de certaines sociétés a de belles expertises, notamment, alors je crois qu'il y a Baumer dans les portes et les cloisonnements, voilà, les portes et les cloisonnements de sécurité. On a aussi CRS Technologies, qui a une compétence dans le nucléaire, et on sait que via le projet Calogena, groupe Gorgé veut développer des petits réacteurs nucléaires. Donc ça, c'est effectivement peut-être un groupe intéressant. Après, forcément, on a une exposition au nucléaire dans des groupes plus importants. Nexans va faire des câbles pour le nucléaire. Vallourec, qu'on connaît surtout pour les tubes sans soudure, oui, pour l'industrie parapétrolière, fait aussi nucléaire, mais c'est sur une fraction, encore une fois, plus restreinte. On peut se dire aussi que finalement, le nucléaire, ça marche à quoi ? Ça marche à l'uranium. Donc, ouais, pourquoi pas aller miser peut-être un petit peu plus en amont de la filière, aller soit sur une société comme Cameco, qui est un des principaux producteurs d'uranium, ou pourquoi pas tout simplement dans un contexte peut-être plus général, là aussi, on le voit, Lorraine, vous avez parlé du Brent, de réappréciation des matières premières, aller sur un ETF uranium, puisque voilà, c'est le combustible nucléaire, il en faudra pour ce redémarrage. Voilà quelques idées. Après, encore une fois, beaucoup de groupes sont dans le nucléaire, mais avec une fraction parfois minime, restreinte de leur chiffre d'affaires.
Voilà, une stratégie de stock picking ou peut-être de gestion passive avec des ETF. Vous nous avez parlé de gros gorgés, de Baumeur, de Vallourec, et puis bien sûr, uranium, un ETF uranium, ça peut toujours marcher. On veut vous apporter une petite précision, parce qu'on a parlé un peu vite des penny stocks. On parlait de est-ce que Casino est ou serait un penny stock, Casino qui cote toujours. Antoine, petite précision.
Mais oui, je suis vraiment un abruti. Alors là, vous pouvez me lancer des tomates. Mais effectivement, il reste des actions Casino, Guichard, Perrachon, ouais, hein, c'est le vrai nom, sur le marché. Elle est sortie de tous les grands indices. Ouais. C'est pour ça qu'elle n'a plus aucune visibilité, plus personne ne s'y risque.
Antoine n'a que le CAC 40.
Il reste 1,5 milliard de dollars de et le SBF 120. Mais il reste 1,5 milliard d'euros de capitalisation quand même. Le titre cote à 4 centimes, donc c'est moins qu'un penny stock.
C'est de l'ultra
penny vraiment stock. Minuscule. Et effectivement, là, de l'ultra penny stock, c'est une fraction de penny stock, on va dire. Donc toutes mes excuses, mais effectivement, Casino cote toujours.
Mais oui, on est dans le direct. Antoine, vous avez beaucoup de latence aussi, qui ne facilite pas notre discussion. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous, Antoine. Décryptage de Tesla, décryptage de... un penny stock, une penny stock. On a parlé un petit peu de nucléaire civil avec des idées de valeur suggérées par Laurent Grassin. Merci beaucoup Antoine de Puronext. Merci beaucoup Laurent Grassin de Boursorama d'avoir été avec nous. Boursorama aussi, où vous trouvez moult contenu pour être meilleur investisseur, investisseuse. Bien sûr, et Laurent, tous les mercredis avec nous. On continue de s'occuper de votre culture financière. On va faire le point sur l'or avec Laurent Schwartz. Est-ce que c'est le moment d'acheter ou au contraire de vendre ? On va décrypter les records de l'or en ce moment, enfin les records récents. Et puis, on répond aussi à vos questions sur comment réagir en cas de krach boursier. Oui, les bear markets, ça arrive, ça fait partie de l'histoire. Après, il y a souvent une chute. Comment réagir ? Que faire ? Réponse dans une grosse heure. Vous nous adressez vos questions, vos réactions direct à bfmbusiness.fr et bien sûr aussi sur LinkedIn en message privé. Je vous lis. À suivre, votre dose d'économie avec Stéphane Petrazzi.
Pour investir sur BFM Business. Tout pour investir. Dose d'économie.
Eh bien, nous continuons à vous emmener à la foire fiscale. Ce matin, Stéphane Petrazzi est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Il a des bonnes idées pour savoir si on pourrait éviter des hausses d'impôts.
Oui, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, publie une tribune ce matin dans Les Échos où il explique pourquoi il refuse d'augmenter les impôts. Il explique qu'il refuse de céder à la facilité, celle qui consiste à faire payer les plus riches. Et il rappelle qu'en France, 10% des contribuables paient déjà les trois quarts de l'impôt sur le revenu. Et puis il souhaite aussi clore le débat sur les super profits des entreprises. Bruno Le Maire explique qu'il n'y aura pas de taxes exceptionnelles ou de taxes de rendement. Il rappelle là encore que des mesures ont déjà été mises en place pour faire payer les entreprises les plus riches, notamment les géants du numérique et les multinationales.
Stéphane, est-ce que vous pensez que ça va réellement clore le débat ?
Alors, Bruno Le Maire est ministre de l'économie, il a une certaine autorité, mais au-dessus de lui, il y a Gabriel Attal, le Premier ministre, qui lui a commandé un rapport qui va être remis au mois de juin sur la taxation des rentes, qui est quand même une forme d'imposition. Donc là, on commence à jouer un petit peu sur les mots. Alors, pas de hausse d'impôts, mais est-ce que ça vaudra aussi pour les revenus des rentes, par exemple l'immobilier, par exemple les revenus des différents placements ? Je sais qu'on en parle beaucoup dans cette émission. Apparemment, sur ce point, la question est encore ouverte, donc le débat n'est pas totalement terminé. Et puis l'essentiel pour Bruno Le Maire, c'était de répondre aux frondeurs de la majorité. Je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais il y a eu quelques divergences sur les impôts récemment. Et puis il fallait répondre aussi au président délégué du CAE, le Conseil d'analyse économique, qui affirmait il y a quelques jours qu'il était absurde de refuser des hausses d'impôts au vu de la situation budgétaire du pays. Et il précisait également que l'hypermobilité des grandes fortunes était largement exagérée. Vous savez, c'est l'argument qu'on met toujours en avant lorsqu'on dit si on augmente les les impôts de manière trop brutale, alors les plus riches vont quitter le pays. Il suffit de se rappeler ce qui s'était passé lorsque François Hollande avait instauré une taxe à 75%. Il y avait eu des départs, certes, mais ça n'avait pas été non plus l'exode massif que certains avaient annoncé.
Bon, alors, hausse d'impôts ou pas ?
Alors, si on regarde les chiffres, ne pas augmenter les impôts, ça paraît difficile. Il va falloir trouver 30 milliards d'euros d'économies en 2 ans. 10 milliards cette année, 20 milliards l'année prochaine. Alors, plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers jours. On a parlé de la réforme de l'assurance chômage, du jour de carence, de la ponction des retraites complémentaires. Mais si ça ne suffit pas, alors il va falloir trouver des recettes supplémentaires, donc augmenter les impôts. Le débat va rester vif, hein, probablement jusqu'aux décisions des agences de notation. On en parlait déjà hier. Fitch et Moody's dans 3 semaines et S&P à la fin du mois de mai. Donc d'ici là, il y aura sans doute une certaine fébrilité et ça va être un petit peu la foire fiscale tous les jours.
Voilà, peut-être que ça va continuer cette foire fiscale. En tout cas, on va continuer à la documenter. Merci beaucoup Stéphane Pedrazzi. On va parler de valeurs, on va parler d'entreprises qui créent des emplois, qui innovent. Peut-être intéressante également pour votre portefeuille puisque l'argent épargné et investi participe à alimenter l'économie.
Tout pour investir en portefeuille.
En portefeuille, avec vous, Jérôme Fauvel. Bonjour Jérôme.
Bonjour Lauriane.
Fondateur de JF Conseil. Et oui, on dit sur un ton léger ces histoires de foire fiscale, mais c'est important parce que quand même, les épargnants, les investisseurs, eh bien aussi participent au tissu économique, à faire vivre les entreprises. Ce n'est pas de l'argent qui dort sur des portefeuilles inactifs, n'est-ce pas ?
C'est l'une des valeurs d'usage de la bourse, c'est de faire des augmentations de capital pour financer les investissements, effectivement.
Bon, vous vous arrêtez ce matin sur 2 entreprises qui vous plaisent bien. On va parler, pour démarrer, de Lindata.
Alors oui, LineData, donc ça a été créé en 1998, ça a été coté en 2000 et LineData est un éditeur mondial de logiciels à destination de la gestion de portefeuille et de la gestion des crédits. Alors avec 20 bureaux dans le monde, 1100 collaborateurs, donc LineData offre une série globale de services auprès de 700 clients, mais avec également 63 000 utilisateurs au travers d'un certain nombre de logiciels, plus de 25, qui s'adressent aussi bien au back-office jusqu'au front-office. Alors, ça concerne, l'offre concerne, du conseil jusqu'au développement, jusqu'à l'hébergement, jusqu'à la maintenance. Et par ailleurs, LineData, en fait, dispose de beaucoup de données depuis 2000. Et donc, ces données sont en constante augmentation et c'est la raison pour laquelle LineData vient de faire une offre d'intelligence artificielle générative à destination de la gestion alternative, mais également de la gestion des risques. Et vous savez que la gestion des risques dans le domaine financier est quelque chose de très, très important.
C'est aussi une entreprise qui a fait pas mal d'acquisitions au cours des dernières années.
L'entreprise a fait beaucoup d'acquisitions depuis 2000. Peut-être pour certains, ceux qui connaissent le plus Thomson Financial, par exemple. Et en fait, donc, c'est alimenter sa croissance avec également, la location, c'est-à-dire le mode SaaS, c'est le terme anglais.
Le logiciel sur abonnement.
Voilà, et donc ça c'est la particularité de LineData. Alors dernièrement, la société a publié ses résultats avec un chiffre d'affaires en hausse de 6,10%, un EBITDA de 53 millions en hausse de 5,3%, pardon, et une marge de plus de 29%, mais ça c'est traditionnel chez les éditeurs de logiciels, et surtout un free cash flow de 31 millions et demi. Alors, pourquoi je cite ce chiffre ? Parce que en fait, c'est une tradition chez LineData, parce que ça a permis de faire des dividendes, de payer des dividendes, mais également de participer à beaucoup de rachats d'actions sur le marché et à les annuler ensuite.
Et ça vous intéresse, Jérôme ?
Oui, ça, c'est une tradition, et cette tradition me rappelle 2 dossiers que j'ai bien connus dans le passé, qui sont Métrologique International et IGU XAO, et qui étaient également des éditeurs de logiciels. Il faut dire que les ingénieurs aiment bien le cash souvent, et donc c'est la raison pour
on
laquelle
on aime bien leur en donner aussi.
C'est la raison pour laquelle en fait ces deux sociétés avaient racheté leurs titres au fil des années, et puis lorsqu'ils ont eu 90% du capital, eh bien ils se sont vendus à un prix beaucoup plus élevé. Alors faisons un petit peu d'histoire sur Line Data. Donc le dirigeant monsieur Anva Rally Jiva donc a monté au-dessus de 50% des droits de vote en octobre 2015 à la suite d'une OPRA, offre publique de rachat d'actions, ça c'est donc, et ensuite a annulé ses actions, et ce qui fait que monsieur Jiva est monté donc à 59% des droits de vote et à presque 52% des actions. Et en fait Jiva a continué depuis 2015 à racheter des actions, les a annulées, et dernièrement en octobre 22, décidément je pense qu'il aime bien le mois d'octobre, il a recommencé une OPRA, ce qui lui a permis de passer à 75% du capital. Donc après je vous laisse anticiper l'avenir, on va dire. Mais en tout cas, vous voyez ce que je peux penser. Je ferai juste une petite remarque sur la valorisation. En fait, les capitaux propres de Line Data sont de 120 millions pour une capitalisation de 100 millions. Avec, je veux dire, une société de cette qualité qui cote en dessous de ses fonds propres, c'est déjà pas très très courant. Et je vous ai dit tout à l'heure, un EBITDA de 53 millions. Il faut savoir que traditionnellement, dans le marché, on a tendance à valoriser l'EBITDA d'une société qui marche correctement autour de 8,5. 8,5 multiplié par 53 millions, ça fait 450 millions, alors que la capitalisation n'est que de 340 millions.
Voilà, quelques chiffres pour illustrer votre attachement, ce qui vous intéresse à cette entreprise que j'appelle, pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast, ça s'écrit Lindata, L-I-N-E-D-A-T-A, et ça se prononce comme Jérôme, Line Data. Jérôme, une autre valeur sur laquelle on va s'arrêter quelques minutes, c'est Equinox, créé à peu près dans la même période, 2003, équipementier qui fournit des solutions et des services, aux opérateurs, notamment téléphoniques, racontez-nous.
Oui, aux opérateurs télécoms et un peu aux entreprises. En fait, c'est sa spécialité initiale, c'est le transport optique, et donc la technologie. La fibre optique. Excusez-moi.
Non,
et donc juste la technologie de Equinops permet le transport optique toute distance, c'est-à-dire jusqu'à 10 000 km sur le terrestre, en sous-marin, tout en augmentant le débit supporté par les fibres sans avoir à en redéployer de nouvelles. Donc dans ce domaine, Equinops vient dernièrement de signer un contrat avec la société Strata aux États-Unis.
Strata qu'on va épeler.
Strata.
Merci.
Donc dans le département l'État de l'Utah, qui se caractérise par une topographie difficile, par un habitat dispersé entre zones urbaines et rurales. Et en fait, la technologie de Equinops permet d'adresser un service de desservir toutes ces zones avec une uniformité dans la qualité du débit. Alors, Equinops met l'accent actuellement sur deux autres technologies qui sont certainement mieux margées. Le transport optique est un petit peu plus et moins bien margé. Donc la première de ces technologies, c'est le edge computing, donc qui consiste à traiter des données près des équipements. Si je prends un exemple, lorsque vous avez des machines dans une usine, vous pouvez avoir des capteurs qui vous donnent des renseignements sur un certain nombre de ces machines. Eh bien, l'information est traitée directement sur place plutôt que d'être transférée sur un data center assez lointain, ce qui est en fait plus rapide de le faire sur place et surtout moins onéreux. Et l'autre technologie, c'est celle, la virtualisation des réseaux, qui répond en fait à la généralisation du télétravail en créant un poste virtuel qui permet de rassembler plusieurs milliers de postes, c'est-à-dire que dans une entreprise, les gens peuvent travailler ensemble, et donc c'est bien évidemment très à la mode depuis la Covid. Alors, depuis ces trois dernières années, Equinops, en fait, a doublé son nombre de clients, a augmenté son chiffre d'affaires de 39% entre 2020 et 2023. Mm-hmm. Néanmoins, en 2023, en fait, l'EBITDA a baissé, l'EBITDA de 18,6 millions a baissé de 18% environ. Et la raison de cette baisse, en fait, est due au fait que Equinops a voulu continuer ses investissements. Par exemple, ils ont réemployé, enfin ils ont augmenté leur nombre de collaborateurs de 47 pour le porter à environ 550. Ils ont continué les déplacements, les salons professionnels. Ils ont continué à faire de la R&D. C'est l'une des raisons pour laquelle, dans le transport optique, ils sont en train de sortir un produit qui va augmenter très fortement le chiffre d'affaires. Et donc, je dirais, cette baisse de l'EBITDA a certainement entraîné une assez forte baisse du cours. Depuis le début de l'année, on est passé pratiquement de 5,60, 5,70 à 3 euros.
Mais quelque part, il prépare le futur.
Et ce que je veux dire, c'est que cette baisse me semble vraiment excessive. Dans la mesure où en fait on a 120 millions de fonds propres, 100 millions de capitalisation et une bonne situation financière avec plus de 25 millions de cash au 31 décembre. Par ailleurs, la société est suivie par la société de bourse TPI Cap Mid Cap et pour 2025, on aurait un PE de 12 fois et demi les résultats.
Voilà, deux valeurs que vous regardez de près. Equinops, vous l'avez entendu dans tout ce qui est solutions pour solutions de télécommunication. Et puis Line Data, on est dans le logiciel notamment pour les services financiers. Merci beaucoup Jérôme pour ce regard porté sur ces deux valeurs, Equinops, Line Data. On vous retrouve très prochainement pour un autre zoom dans votre portefeuille. Jérôme Fauvel, fondateur de JF Conseil. Dans les prochaines minutes, on va tenter de faire le point sur les records de l'or. Faut-il vendre ou acheter? Et qu'est-ce que ont à voir les cryptos, peut-être, avec le cours actuel de l'or? Est-ce que les cryptos donneraient encore plus d'attrait? Alors, réponse dans quelques secondes.
Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir, le coach.
Nous allons nous occuper de tenter de décrypter les records de l'or. Oui, la situation géopolitique est compliquée, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cet élément qui porte l'or au sommet historique, aux sommets historiques, j'ai envie de dire au pluriel, parce que depuis quelques semaines, il ne fait que battre des records. Pour décrypter ce métal précieux, le métal jaune, Laurent Schwartz est avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour Lorraine.
Laurent Schwartz, président du comptoir de l'or avec nous. Bon, rappelez-nous quelques chiffres, parce que depuis qu'on a préparé cette interview, il y a eu de nouveaux records. Donc, mettez nos pendules à l'heure, si je puis.
Alors, les records datent de ce matin. On a dépassé les 60 000 euros le kilo et également les 2274 dollars l'once. Ce sont des records historiques. Le cours de l'or établit une performance depuis le début de l'année de près de 11% en euros ou en dollars. C'est une performance qui dépasse de loin celle du CAC 40 qui s'établit à 3,4% sur le mois de mars.
Voilà, l'or qui repasse officiellement devant le CAC 40. On va pas faire trop de redites. On a déjà beaucoup couvert les doutes sur la solidité de l'économie, ceux sur les perspectives d'assouplissement monétaire qui sont de plus en plus fébriles, le contexte géopolitique encore plus tendu. J'aimerais qu'on s'arrête avec vous sur un des éléments qui porte cette croissance dont on ne parle pas beaucoup en dehors de notre chaîne, c'est l'envie d'or physique, notamment de la Chine.
Alors, c'est vrai que la Chine, aujourd'hui, accumule beaucoup d'or. Cette année, les années précédentes, c'est vrai qu'elle est passée premier producteur et premier consommateur d'or au monde dès 2012. C'est un pays qui accumule de l'or pour diversifier ses réserves. La banque centrale achète beaucoup d'or, on le sait, 10 tonnes par an, je crois 15 ou 17 mois d'achats consécutifs pour la Chine. Les Chinois sont culturellement de grands admirateurs de l'or et des valeurs de manière générale. Et c'est vrai qu'au mois de janvier, on a observé une augmentation de 25% de la consommation d'or physique, bijoux comme pièces ou lingots.
Il y avait le nouvel an chinois.
Il y avait le nouvel an chinois. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pèse lourd quand on connaît le poids de la Chine dans la consommation mondiale d'or. La consommation d'or dans le monde, c'est deux tiers de demande de bijoux. Donc le secteur de la bijouterie pèse très lourd. Mmh. Et la Chine consomme une grosse partie avec l'Inde de cette demande.
Il y a aussi un contexte assez incertain en Chine. Au-delà de toutes les incertitudes qu'on a listées qui concernent l'ensemble du monde, le marché immobilier en Chine est compliqué. Il y a aussi les actions, le marché chinois qui est assez bas. Ça aussi, ça pousse l'achat physique d'or en Chine ?
Oui, c'est une valeur refuge en France, en Chine et dans le monde. L'or est une valeur refuge, reste une valeur refuge. Le marché chinois de l'immobilier a beaucoup baissé, il a complètement chuté. Il y a une véritable crise immobilière en Chine et les actions ont chuté en début d'année, même si elles se reprennent un petit peu. Elles ont chuté de 40% et ça pousse les épargnants chinois à se tourner vers ce qu'est la valeur refuge.
Petite question, ça fait quoi les ETF or en ce moment ?
Alors, c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passe du côté des ETF parce que les records historiques observés dans les années 2010 suite à la crise des subprimes avaient amené était la conséquence d'une augmentation très forte d'investissement sur les ETF en or. Et ces ETF ont beaucoup reflué depuis cette époque, notamment depuis ce pic qu'on a connu en 2013. Les ETF, l'or détenu au travers des ETF a beaucoup reflué. Et aujourd'hui, si l'on souhaitait revenir à des niveaux ETF datant de 2020, il faudrait que les ETF augmentent de 800 tonnes. 800 tonnes, c'est énorme. Et cela propulserait vraisemblablement le cours de l'or à des niveaux beaucoup plus élevés.
L'or qui repasse devant les actions, la demande physique qui tire le cours, cet alignement des planètes presque dramatique, j'ai envie de dire. La situation géopolitique s'est beaucoup tendue depuis le début de la semaine. Quel est votre regard, Laurent ?
C'est vrai qu'on s'interroge toujours sur ce que va devenir faire le cours de l'or. C'est vrai que ça fait 15 ans qu'on voit s'accumuler et se répéter les records et qu'à chaque fois on se dit, est-ce le moment d'acheter ? Est-ce qu'il est temps de se positionner ? Et à chaque fois, le cours de l'or a poursuivi sa hausse, fort d'une politique monétaire accommodante, fort d'une géopolitique que l'on connaît qui n'a cessé d'être tendue et qui se poursuit et qui probablement à l'avenir restera tendu. Voilà.
Le nouveau monde en fait finalement, une politique monétaire cryptique, des risques géopolitiques qui n'ont pas de raison de se calmer dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans un monde peut-être plus découpé en zones. Amaury Tonquédec nous a rejoint. Bonjour Amaury.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Aux manettes de BFM Crypto, le club, on voulait finir cette séquence, Laurent, en vous posant, Amaury, pour vous poser une question entre l'or et les cryptos. Hein, on est sur deux valeurs refuges qui connaissent en ce moment des sommets. Allez-y Amaury.
Bah, c'est ça, en fait, bon, dans les cryptos, il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois toutes les cryptos et à la fois le Bitcoin, celles qu'on donne la plupart du temps comme étant l'or numérique pour certains. Est-ce que la montée récente du cours du Bitcoin et surtout l'institutionnalisation croissante de cette nouvelle classe d'actifs a un impact simplement sur le cours de l'or ou alors sur la vision qu'ont certaines personnes de l'or? Est-ce que par exemple vous dans votre business, est-ce que vous avez des nouveaux clients que vous n'aviez pas avant depuis la montée en puissance de cette nouvelle classe d'actifs que sont les cryptos?
Alors on observe une clientèle qui s'élargit, avec un profil qui s'élargit depuis le Covid. Le Covid, ça a été vraiment une période où de nouveaux profils, de nouvelles personnes ont commencé à s'intéresser à l'or. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu tout le monde qui s'intéresse à l'or. Et l'investisseur Bitcoin est un peu un cousin, est assez proche finalement de l'investisseur crypto. Ils sont cousins, ils ont des attentes qui sont similaires. C'est vrai que l'investisseur crypto recherche une valeur refuge aussi. Il recherche un potentiel d'appréciation, il recherche aussi une diversification et surtout il recherche de n'avoir aucun risque de contrepartie et d'être détenteur de sa propre valeur sans avoir finalement un actif qui soit la dette de quelqu'un d'autre. Pour autant, la comparaison s'arrête là. En termes d'âge, les détenteurs de crypto ont des âges sont plus jeunes que les détenteurs d'or physique, même si les détenteurs d'or physique ont tendance à se rajeunir. On a également une différence dans le sens où l'or physique, c'est quelque chose de physique, et la crypto, c'est la reste virtuelle, même si on peut l'avoir sur sa clé USB. Et puis, c'est vrai que l'or physique ne s'ouvre véritablement d'aucun risque de contrepartie. On ne passe... l'or et les cryptos sont des alternatives, en quelque sorte, au marché bancaire, au système bancaire. Et l'or, lui, ne passe par aucun intermédiaire. L'or, on l'a chez soi, ou à sa banque, dans un coffre, ou dans son coffre chez soi. Il est physique. Parfois, on l'a très proche de là où on habite. Et il ne peut pas y arriver grand-chose, finalement, à cet or. Donc, il y a vraiment une sécurité qui est ressentie par les détenteurs d'or physique qui ont vraiment la main mise sur cet or.
Merci beaucoup, Laurent Schwartz. Cette comparaison entre les cryptos et l'or, évidemment, c'est parce que la thèse d'investissement sous-jacente est assez similaire d'un actif à l'autre, pour ceux qui trouvent que les cryptos sont des actifs comme les autres. Merci beaucoup, Laurent Schwartz et l'équipe du Comptoir National de l'Or, qui doivent avoir beaucoup de travail en ce moment. Et merci à Maurice Tonkadec, qu'on retrouve dans quelques secondes. C'est l'heure de la deuxième partie de Tout pour investir. On est un petit peu en retard. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.